Histoire universelle, biographie et hagiographie. Quoi de commun entre la comtesse de Castiglione, favorite de Napoléon III, et Sainte-Claire d'Assise? J'avais lu l'une et l'autre biographie. Comme je l'ai expliqué, passionné d'histoire et d'histoire, j'étais avide de découvrir le fonctionnement du monde et les ressorts de l'humanité, la différence entre le possible et l'effectif, le jeu entre la grâce divine et la liberté de l'homme, et je buvais en quelque sorte à tous les abreuvoirs. Mais très vite, une opposition frappante m'est apparue. Les courtisanes et les femmes mondaines misaient sur la séduction, le plaisir, le pouvoir, l'argent, les relations haut placées et la gloire des milieux politiques ou culturels. Elles écrasaient beaucoup de monde pour y parvenir, renonçaient à tout scrupule moral s'il entravait leur route, parvenaient au sommet escompté, puis la roue de la fortune tournait immanquablement, d'autres les supplantaient, et elles se retrouvaient ridiculement précipitées au sol, vieillies, humiliées, abandonnées, vides et désespérées, avec la mort comme seule perspective. La Castiglione, par exemple, devenue une femme âgée et fanée, vivant dans la solitude, fut trouvée dévorée par ses chiens dans son petit appartement. Même au sommet de leur gloire, elles étaient en général haïes et jalousées et rencontraient plus d'ennemis avides de leur chute que d'amis sincères. Qu'apportaient-elles au monde, elles qui n'avaient vécu que pour assouvir leurs caprices ou servir d'agents à des hommes de l'ombre voulant influer sur la politique royale? Certes, avec l'argent dont elles disposaient, elles avaient parfois stimulé la création artistique ou le progrès des sciences. Mais qu'était-ce au regard du cœur à jamais blessé de l'épouse délaissée et de la dignité des pauvres honnêtes, les délaissés de l'histoire officielle? C'est en tout cas la pensée profonde qui me venait, au-delà de la fascination que pouvait engendrer leur esprit vif et acéré, leurs traits harmonieux, leurs peaux satinées, leurs gestes étudiés, leurs joyaux de prix et leurs costumes de soie brodés et rebrodés, tout luxuriant des mille recherches de l'art et de la vanité. Quand je regardais la vie des saintes, religieuses ou moniales notamment, c'était le contraire. Souvent, elles renonçaient à des perspectives mondaines séduisantes pour affronter par amour pour Dieu le poids du travail, le jeûne, la pauvreté, la faim, le froid, les regards méprisants, la précarité de l'abandon à la Providence. Elle dissimulait une beauté parfois remarquable, la négligeait même dans les faits, ainsi que leur santé, pour servir le Christ dans ses pauvres ou s'offrir en sacrifice pour le salut du monde dans une vie cachée. Leur relation à leur prochain était empreinte de douceur, de patience, de pardon, d'humilité, de sagesse, de détachement, de service effectif. On se sentait meilleur à leur contact. Les désespérés reprenaient courage. Les humiliés de l'existence, les scrofuleux et les demi-portions, redressaient la tête et se découvraient fils bien-aimés du Très-Haut, tout baignés de lumière divine. Leurs initiatives audacieuses mettaient comme une dynamique de vie et de résurrection là où un hiver glacial semblait régner avant elles. Bien des choses refleurissaient comme par magie. Quand ces saintes étaient des personnalités publiques, par exemple entre des centaines Sainte Geneviève, après un moment de calomnie triomphante, elles étaient finalement réhabilitées, aimées tendrement et vénérées par le peuple comme par leur prochain le plus immédiat. À leur mort, elles mouraient en paix, confiantes et joyeuses d'aller à la rencontre de l'époux divin, et leur sépulture était une apothéose. Quant au sort de leur âme dans l'éternité, si l'on croit au Christ, on en peut douter. On voudrait bien être à leur place, tandis que l'on peut se demander l'état de l'âme de quelqu'un qui n'a pas produit des fruits de conversion. Du reste, même si les femmes saintes et autres bienheureuses avaient renoncé aux parures luxueuses, plus d'un témoignait avoir éprouvé devant elles la révérence que l'on ressent devant un ange du ciel, ou bien avoir surpris sur leur visage quelque chose de la gloire resplendissante du royaume à venir. Dans leurs extases, l'amour divin enluminait leur teint et faisait resplendir leurs yeux d'une clarté parfois insoutenable. Des parfums merveilleux et inexplicables se faisaient sentir. des chants mélodieux venaient de nulle part. Des corps sains résistaient parfois à la corruption de la mort et étaient retrouvés intacts des siècles après, signe vraisemblable d'une réalité plus haute. Fasciné par le phénomène de la sainteté, j'y voyais à l'évidence le plein accomplissement de la personnalité humaine, où la raison et la grâce dominaient sur les pulsions bestiales et égoïstes. C'était la manifestation libre des dons uniques de chaque personnalité, d'une façon originale et surprenante chaque fois. Et la sainteté m'est apparue comme le vrai moteur de l'histoire, la violence à qui l'on a faussement attribué ce rôle, n'étant capable que de détruire, de diviser et de désespérer, de tirer l'homme vers le bas et d'écraser les faibles. Seuls les saints constituaient l'avenir et refaisaient circuler le fluide de la vie dans le monde. Si les saints, connus ou inconnus, n'existaient pas, le monde se serait autodétruit depuis longtemps. Je ne saurais dire combien d'hagiographies j'ai lues. J'avais du reste l'espérance naïve et inavouée que par capillarité et sans trop d'efforts, je finirais par ressembler à ces personnes dont je lisais l'histoire et que j'admirais tant. Mais la sainteté, je le sentais bien dans le fond, n'a rien de platonique. C'est par des actes concrets qu'elle naît et se développe. Dieu ne se prouve pas, il s'expérimente. J'avais du pain sur la planche. Ces considérations, comme celles semblables auxquelles se livra saint Ignace de Loyola, m'aidèrent à discerner les esprits et à poser des choix dans ma vie. Je réfléchis aux relations à entretenir et à éviter, aux moyens à prendre pour atteindre mon objectif, en refusant d'avance de me faire avoir par bien des pièges séduisants où j'aurais pu tomber, vu mon inexpérience de tout. Je me dis qu'en toute chose, il faut considérer la fin et éviter de reproduire les erreurs des autres. À ce titre d'ailleurs, les cours de récréation, que ce soit au collège ou au lycée, que j'intégrais en 1982, m'offraient un site d'observation de premier plan. J'y voyais les mêmes logiques à l'œuvre, entre garçons et filles notamment, les ragots, la vantardise, les jalousies, les luttes de pouvoir, les passions éphémères et les ruptures destructrices, le cynisme et la crédulité sans mêler dans une dynamique de désespoir et de fuite dans le divertissement. L'expérience des autres n'est-elle pas faite pour nous servir de leçon ?